Chapitre 11. Chaque fois que Jean-Noël avait été à Saint-Cloud, Madame Mourier le lui avait reproché. Il était vraiment trop bon. Elle ne comprenait pas qu'il eût tant d'égards pour une femme qui acceptait d'être à la charge de l'homme qu'il avait abandonné et dont, par ailleurs, elle avait honte d'être la rivale, même triomphante. Ce fut donc sans rien dire alors, sans parler surtout de son intention de divorcer, que par un froid et pluvieux matin de février, il se rendit à Saint-Cloud. Il ne prit pas un taxi comme il avait fait souvent, non pour la petite satisfaction d'imposer à Marguerite, mais pour celle, plus grande, de montrer que la gêne ne lui avait pas fait perdre les habitudes qu'il avait soi-disant prises dans sa famille. Il arriva un peu avant midi. Le vent, qui s'était levé brusquement, soufflait par rafales. Il longea la Seine si moutonneuse qu'elle semblait n'avoir plus de courant. Les arbres étaient inclinés dans tous les sens, comme si le vent ne venait ni d'est ni d'ouest, mais de partout. D'obscurs nuages, se défaisant sous d'autres nuages plus clairs, donnaient au ciel une telle animation que les quais paraissaient déserts. Mais Jean-Noël ne songeait qu'à Marguerite. Comment l'accueillerait-elle ? Il savait, malgré le silence qu'elle observait sur ce sujet, qu'elle ne lui pardonnait pas de l'avoir délaissée. Si elle le harcelait de demandes d'argent, ce n'était pas seulement pour qu'une petite innocente ne souffrît pas des fautes de son père, mais pour que celui-ci comprît à quoi menait une mauvaise action. Elle n'exigeait de son mari que de l'argent. S'il se dérobait, elle serait intransigeante. Sa vie à elle ne comptait plus, elle en avait fait le sacrifice. N'était-ce pas peu de chose qu'en échange Jean-Noël sacrifia son bien-être ? Ne devait-il pas s'estimer heureux de s'en tirer à si bon compte ? Elle avait pourtant espéré longtemps une réconciliation. C'est pourquoi elle avait mieux aimé se séparer de sa famille qui avait voulu qu'elle relançât les Villemur que de faire un tort quelconque à Jean-Noël. Par la suite, elle avait regretté cette générosité dont celui-ci ne s'était même pas aperçu. Le temps avait passé, rendant les représailles difficiles. Aujourd'hui, aigrie, elle feignait de n'exiger qu'une chose de son mari, qu'il fît son devoir. Elle ne prononçait jamais le mot de divorce, elle attendait qu'il le prononçât le premier. Les rôles seraient alors renversés. Tout ce qu'elle avait enduré vaudrait d'avoir été enduré pour ce jour. Il viendrait, et ce serait sa revanche. Tout ce qu'elle avait souffert, autant pour sa fille que pour être plus forte, aurait au moins servi à quelque chose. Il faudrait qu'elle fût dédommagée. Aucun tribunal au monde, après l'abnégation, la fidélité qu'elle avait montrée, n'oserait contester ses droits. Elle aurait autant de preuves qu'on lui en demanderait de son dévouement. 100 personnes étaient prêtes à témoigner. Cependant que Jean-Noël avait vécu chez une femme, de l'argent de celle-ci, ce qui indiquait bien son absence de moralité, elle avait élevé sa fille. En s'engageant dans la rue de la Mission Marchand, où Marguerite avait loué un pavillon dont la petitesse contrastait avec les pierres meulières des murs, Jean-Noël était inquiet. Il sentait combien forte était la position de Marguerite et combien dangereuse la sienne. N'avait-il pas agi avec une étourderie impardonnable ? S'il n'était pas prêt à la lutte, si depuis des années il n'avait songé qu'à sa tranquillité, dans l'autre camp, tout était en ordre certainement, ses lettres classées, ses paroles retenues, sa vie connue. Un compte exact des sommes qu'il avait versées était fait. Une foule d'amis dévoués, semblables à ceux dont sa mère avait si bien su s'entourer jadis, attendait impatiemment le signal d'intervenir. Il se souvint du jour où Marguerite l'avait supplié de ne pas la quitter. Malgré cela, il était parti, sans même avoir été particulièrement remué par la détresse de sa femme. Allait-il payer à présent sa sécheresse de cœur ? Ce n'était pas certain. Marguerite n'était peut-être pas la mégère qu'il imaginait. Peut-être avait-il sur elle un empire plus grand qu'il ne le supposait. Peut-être désirait-elle, elle aussi, le divorce et attendait-elle qu'il en parlât le premier. S'il s'était montré inflexible au moment de la séparation, il n'en avait pas moins fait par la suite tout ce qu'il avait pu pour en atténuer la brutalité. À son retour de voyage, il s'était immédiatement engagé à lui verser une mensualité. Il lui était arrivé souvent de le faire avec du retard, mais si on jugeait sa conduite sans parti pris, Il fallait convenir qu'il n'avait jamais perdu la notion de ses devoirs. Ce fut un peu réconforté par ses réflexions qu'il sonna à la grille du jardinet qui se trouvait devant le pavillon. Presque aussitôt, une porte s'ouvrit et Marguerite parut. Elle portait un tablier et elle n'avait pas encore fait sa toilette. Il entra. En s'essuyant les mains à ce tablier, Marguerite descendit les quelques marches du perron. Elle avait quelque chose d'empressé et d'aimable qui rassura Jean-Noël. Mais avant de tendre la main à son mari, comme si l'arrivée de celui-ci était un événement extraordinaire, elle courut à la fenêtre et, montant sur une chaise du jardin, frappa au carreau. « Viens, viens vite, Annette, ton père est là !» La petite fille parut à la fenêtre. Après quelques secondes d'hésitation, durant lesquelles Jean-Noël s'aperçut que son enfant le considérait comme un étranger, sans doute parce qu'elle se rappela ce que sa mère lui avait dit, elle voulut escalader la barre d'appui pour se jeter plus rapidement dans les bras de son père. Marguerite, en simulant l'affolement, l'en empêcha. À l'importance que prit cette scène et qui détourna trop soudainement l'attention de Jean-Noël, celui-ci sentit combien superficielle était la joie qu'on avait de le revoir. « Papa !» cria Annie en se jetant finalement à son cou, aussi fougueusement que si elle l'avait fait tout de suite. « Veux-tu être sage ?» dit Marguerite, sans que cette observation fît le plus petit effet et sans qu'elle en parût contrariée. Cet accueil n'était guère différent de tous ceux qu'on lui avait faits. Il lui causait la même impression pénible. N'était-il pas responsable de cette vie médiocre ?« Cela suffit, va jouer !» dit Marguerite. Le prétendu amour que la fillette avait pour son père s'évanouit sur le champ. Sans plus se soucier de la leçon qui lui avait été faite, elle s'éloigna. Justement, continua Marguerite, elle me parlait de toi ce matin, elle me demandait quand tu viendrais. Si j'avais su que c'était aujourd'hui, je le lui aurais dit. Elle a encore grandi, fit Jean-Noël en entrant dans la maison. Devant la porte de la salle à manger, il se tourna vers sa femme et lui demanda du regard s'il pouvait avancer, de manière à montrer qu'il ne faisait aucun cas de sa qualité légale de chef de famille. « mais oui, entre !» Elle ne s'excusa pas du désordre qui régnait dans la pièce et dont le négligé de sa toilette avait donné un avant-goût. Des taches d'humidité, provoquées par le voisinage de la Seine, étaient visibles sur les murs. Des vêtements traînaient partout. Il y avait, de ci, de là, des vieilleries trahissant des prétentions artistiques, des châles indiens mangés par les mythes, des statuettes, des potiches pleines de fleurs fanées, une bassinoire de cuivre suspendue à un clou. Il faisait un froid glacial. La trappe de la cheminée était levée, mais dans l'âtre, il n'y avait que les extrémités calcinées d'une bûche. Marguerite surprit le regard de son mari. « Je ne fais que du feu de bois, c'est beaucoup plus sain pour Annette. Mais si tu as froid, continua-t-elle comme si son mari, amolli par la vie facile, ne pouvait se faire à la rigueur de la maison. Rien ne nous empêche de passer dans le salon. « Mais pourquoi l'appelles-tu Annette ?» demanda Jean-Noël. « Je ne sais pas, cela me plaît mieux qu'Annie. Cela ressemble à fillette, à coquette. » Il s'assit sans ôter son pardessus, puis observa Marguerite. Elle ne faisait aucune attention à lui, non qu'elle fût occupée à mettre de l'ordre dans la pièce, ce qui eût été avoué que celle-ci en avait besoin, mais parce que, depuis qu'elle était séparée de son mari, elle ne le regardait jamais, sauf dans certaines circonstances où elle le dévisageait. Il eut paru devant elle déguisé qu'elle eût faim de ne pas s'en apercevoir. Seul comptait à présent l'homme qu'il était réellement. « Tu veux peut-être du café ? » demanda-t-elle. « Oui, si cela ne te dérange pas. » À ce moment, on entendit, venant de la pièce voisine, un bruit de tambour. « Veux-tu te taire ?» cria Marguerite. Le bruit continua. Cette fois, Marguerite n'y prit plus garde, car l'amour-propre que mettent certaines mères à être obéies, elle le mettait à être désobéie. Jean-Noël se sentit alors envahi de tristesse. Que deviendrait sa fille en grandissant? Si Marguerite avait été une femme comme toutes les femmes, la maison eût eu un tout autre aspect. Il devait se taire. Chaque fois qu'il avait donné un conseil, on ne l'avait pas suivi, un homme qui a abandonné les siens n'étant pas digne d'être écouté. Marguerite revint peu après, avec un petit plateau couvert d'un apéron, mais sans qu'elle eût profité de son absence pour mettre de l'ordre dans sa toilette. « Fais attention, dit-elle, mon café est toujours très chaud. » Elle semblait uniquement soucieuse de remplir les devoirs d'une épouse. Annette, comme elle disait, ne devait-elle pas toujours ignorer le désaccord de ses parents ? « Je suis venue parce que j'ai à te parler, » dit Jean-Noël. « Parle, » répondit sur-le-champ Marguerite, qui, se doutant déjà de quoi il s'agissait, tenait à ce que son interlocuteur sût qu'elle avait la conscience tranquille et qu'elle ne s'écarterait pas de la règle de conduite qu'elle s'était tracée. Jean-Noël s'efforça alors de faire comprendre à sa femme, qu'il interrompit deux fois en lui disant « Parle plus bas », que la vie qu'ils menaient tous les deux ne pouvait plus durer, qu'elle était d'ailleurs aussi désagréable pour l'un que pour l'autre, qu'Annie grandissait et que cette existence de camp volant lui était nuisible. Il s'entendait parler. Il avait l'impression que sa voix manquait de naturel. Finalement, il fit allusion à un divorce qui rendrait à chacun sa liberté. Il se tut, regarda Marguerite, étonné qu'elle ne rompît pas le silence. « Tu ne réponds pas ?»« Ah, pardon !» fit-elle comme si elle avait commis une petite maladresse. « Je croyais que tu n'avais pas fini. Tu me demandes de divorcer ?»«
Oui. »«
Ce n'est pas possible. » En personne sûre d'elle-même, elle prit un temps. « À cause d'Annette, si elle n'existait pas, cette pauvre petite, il y a longtemps que c'est moi qui te l'aurais proposée. Mais elle existe, tu le sais mieux que quiconque. » Et je n'ai pas le droit de la priver de son père, malgré tout le désir que j'en ai, crois-moi. » Jean-Noël comprit qu'il valait mieux ne pas insister. « Nous en reparlerons, » dit-il en se levant. « Ce n'est pas la peine, je ne changerai pas d'avis. J'aime mieux te prévenir. » Dans le tramway qui le ramena à Paris, Jean-Noël réfléchit à ce qui s'était passé. Il s'était attendu à un refus, mais jamais il n'aurait cru que celui-ci serait si net. Il s'était figuré qu'après une opposition pour la forme, Marguerite aurait cédé rapidement. Il n'avait pas songé que si elle avait perdu son mari en fait, elle l'avait gardé en droit et que, dans l'isolement de Saint-Cloud, cette situation lui avait tourné la tête. Tant que Jean-Noël demeurait son mari, et il le demeurerait aussi longtemps qu'elle le désirerait, elle conservait, non pas l'espoir qui lui revint, mais cette importance qu'on imagine chez l'obscur commerçant qu'il s'agit d'exproprier. Jean-Noël se reprocha son imprévoyance. Jusqu'à ce jour, il s'était conduit comme si seul le présent comptait. C'était sans avoir daigné donner de raison qu'il avait quitté sa femme. Il l'avait traitée comme si elle n'avait aucun droit sur lui, comme si le fait de lui avoir donné un enfant ne comportait aucune obligation. Et aujourd'hui, au moment où il commençait à comprendre qu'il ne serait heureux que dans l'ordre, il constatait que Marguerite avait une existence propre, qu'elle était autant protégée par la société qu'il ne l'était, lui, que ces mêmes lois, grâce auxquelles personne n'avait pu le contraindre à faire ce qu'il ne voulait pas, ce dont il ne s'était pas aperçu, permettaient aujourd'hui à sa femme de refuser le divorce.